La municipalité de Sainte-Élisabeth désire prévenir les auditeurs que cet enregistrement peut contenir des propos inexacts ou cités hors contexte. La municipalité vous invite donc à considérer ceci avec prudence et vérifier avec des sources écrites telles le journal municipal ou le site internet de la municipalité avant de considérer ces informations comme exactes.
Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du conseil de municipalité le 16 décembre à 19h au centre primaire. Tous les membres du conseil sont présents dans le fond de quorum, ainsi que M. David Paradis Lapointe, directeur général des greffiers. Donc, il faudra un petit peu d'exercice comme tantôt. Je vais vous en aller à vous lever pour un petit peu de silence. Vous plaît. Merci beaucoup. Donc, un rappel des règles de fonctionnement d'une séance du conseil municipal. S'il vous plaît. Les citoyens sont les bienvenus à poser leurs questions selon les méthodes établies par le règlement. Les commentaires, questions et interventions du public sont permis uniquement lors des périodes de questions, après avoir obtenu le droit de parole par le président de l'Assemblée. Afin d'assurer le fonctionnement de la municipalité et du conseil municipal, le règlement de régie interne sera appliqué. Quiconque prend la parole sans avoir obtenu l'autorisation du président de l'Assemblée est passible d'une amende de 100 $ après avoir reçu un seul et unique avertissement. Quelqu'un qui est décidé peut également être invité à quitter la salle. En résumé, il est possible de prendre la parole en étant au micro seulement, après avoir eu d'autres paroles données par le président de l'Assemblée. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour. Donc, tous les membres du conseil ont pris note de l'ordre du jour. Prenez un proposeur, s'il vous plaît.
Je propose.
M. Serge Perrault, appuyé par. M. Pierre Coutu. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote.
D'accord.
Accepter l'unanimité. Correspondance. Le résumé de la correspondance concernant les élus en date du 11 décembre 2024 est déposé. 3.1. Demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement. M. François-Henri Lafarge.
Considérant qu'en vertu des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, publié en décembre 2023, il y a eu précision sur les options de gestion des sols présentant des teneurs naturelles en métaux et métalloïdes dépassant les critères applicables. Considérant que les lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés remplacent les orientations du guide d'intervention protection des sols, réhabilitation des terrains contaminés, et qu'une mise à jour de ce dernier prenant compte de nouvelles lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés est attendue ultérieurement. Considérant que la section 4.1 des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés précise que les tableaux 2, 3 et 4 s'appliquent autant pour une contamination de nature anthropique que pour une concentration naturelle d'un métal ou métalloïde dans le sol. Considérant qu'importe si ces concentrations selon les critères du MELCCFP soient d'origine naturelle ou anthropique, le ministère considère que les sols doivent maintenant être gérés comme des sols contaminés malgré toutes les contradictions que cela implique pour les municipalités qui doivent assumer des coûts exorbitants afin de disposer de ces sols d'origine naturelle, dites contaminés, à des sites autorisés par le ministère. Considérant que cette directive entraîne donc l'émission de grandes quantités de gaz à effet de serre en transport inutile de sols naturels, car les sites autorisés sont en nombre limité et souvent loin des chantiers, considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant les municipalités locales sont assujetties aux décisions du MELCCFP, considérant que les critères émis par les lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MELCCFP ne sont pas raisonnables et ne tiennent pas compte ni des matières qui se trouvent dans les sols de façon naturelle dans les différentes régions, ni des besoins et des capacités financières des municipalités, Je propose de demander formellement au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, une révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, une modification des critères du guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des sols contaminés, et d'assouplir les lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fonds naturels dans les sols, afin que les critères des sols avec des concentrations élevées puissent être évalués différemment s'ils sont d'origine naturelle, et d'accepter au minimum le critère générique de teneur de fonds de chaque province géologique.
Qui appuie la proposition?
J'appuie.
Monsieur Serge Perrault. Donc, le gouvernement change sa ligne directrice. Avant, on avait un sol contaminé, mais on le décontaminait lorsqu'il était décontaminé. Aujourd'hui, s'il y a présomption ou quoi que ce soit, la municipalité est obligée, même si ce n'est pas contaminé, même si c'est juste un effet naturel du sol qui crée dans leur nouveau critère un genre de contamination, pour eux, même si ce n'est pas contaminé par de l'huile ou quoi que ce soit, ils considèrent à ce moment-là que c'est contaminé selon eux. Ils obligent toutes les municipalités à ce moment-là à agir, à décontaminer les sols pour rien, parce que c'est un élément naturel qui était dans le sol, tout simplement. Et c'est pour ça que toutes les municipalités vont s'opposer à ce règlement-là du gouvernement. On demande donc un changement pour éviter beaucoup de frais inutiles pour la population. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote, s'il vous plaît.
D'accord.
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 Accepté à l'unanimité. Demande de permission de voirie entretien de voirie et entente d'entretien année 2025. M. Serge Perrault.
Considérant que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la mobilité durable, si après nommé ministère, considérant que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère. Considérant que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Considérant que la municipalité ville s'engage à respecter les clauses de permission de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère. Considérant que la municipalité ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Considérant que la municipalité ville s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. Je propose que la municipalité demande au ministère de lui accorder la permission de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise Mme Brigitte Toupin à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments à l'emprise excédant pas 5 000 $ et qu'elle autorise M. David Paradis-Lapointe à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'entreprise n'excèdent pas 10 000 $ puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues.
Qui appuie la proposition? M. Pierre Coutu. Donc, on demande une résolution générale pour l'année 2025, ministère du Transport, dans ces conditions-là. Au lieu qu'à chaque fois qu'on a des travaux à faire sur le chemin du ministère du Transport, il faut demander la permission pour attendre des délais de réponse qui sont assez considérables parfois. Simplement. Donc, s'il n'y a pas de questions, passez au vote, s'il vous plaît.
D'accord.
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 Accepté à l'unanimité. 4.1, adoption des procès-verbaux. Monsieur Serge. Pardon? C'est correct?
Oui.
Monsieur Serge Perrault.
Les élus ayant consulté les documents au préalable, je propose d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 novembre 2024 et de la séance extraordinaire du 4 décembre 2024.
Qui appuie la proposition?
L'appui.
M. Benoît Desrochers. Si ce n'est pas de question, je passe au vote.
D'accord.
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 Accepté à l'unanimité. 4.2. Avis de motion et défaut pour le règlement de concordance pour les zones sujets au glissement de terrain. C'est reporté à une prochaine réunion. 4.3. Dépôt des intérêts pécuniaires. Le directeur général, dans son avis, dépose la mise à jour annuelle des intérêts pécuniaires des élus suivants, M. Benoît Desrochers. Donc, tous les élus ont déposé la déclaration d'intérêt pécuniaire à ce jour. Adoption au règlement 518-2024-1, règlement de gestion contractuelle. Monsieur François-Henri Lafarge.
Considérant qu'une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la municipalité le 25 janvier 2011, considérant que l'article 938.1.2 du Code municipal a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Considérant que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, considérant que le projet de loi 57, sanctionné le 6 juin 2024, ajoute au contenu obligatoire du règlement sur la gestion contractuelle d'un organisme municipal des mesures favorisant les fournisseurs et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Je propose d'adopter le projet de règlement 518-2024-1, règlement de gestion contractuelle. Celui-ci remplace le règlement 518-2018 et inclut, notamment, un élargissement de l'obligation de rotation des contractants en bas du seuil public d'appel d'offres, certaines situations exceptionnelles où la municipalité peut contracter auprès de fonctionnaires, employés municipaux ou membres du conseil municipal, ainsi que les obligations présentes si de telles situations se présentent. Le tout basé sur le projet de loi 57, maintenant en vigueur, et l'obligation d'ajuster son règlement de gestion contractuelle en ce sens.
Qui appuie la proposition?
J'appuie.
M. Serge Perrault. Donc, le projet de loi 57, le gouvernement tient compte du manque du besoin des petites municipalités en personnel ou en effectif parfois, donc donne la permission de contracter ou de faire contracter certains employés municipaux sur des projets ou d'autres personnes ou d'autres fonctionnaires. Donc, et c'est limitatif, c'est pas abusif. Donc, il faut vraiment préciser qu'on avait un manque et que pour cette tâche-là, on a utilisé cette personne-là, tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que c'est la deuxième lecture pour l'adoption de... Donc, c'est l'adoption ce soir de l'élément final, deuxième lecture. Donc, je passe au vote, s'il vous plaît.
D'accord.
Il faut en appuyer, par contre.
Monsieur Serge Perrault.
Ah, pardon, excusez-moi.
D'accord.
D'accord.
Accepté à l'unanimité. 4.5. Nouvel avis de motion et dépôt. 497-2024-1. Code d'éthique et d'anthologie des élus municipaux. C'est reporté en attente d'un avis juridique. 4.6. Avis de motion et dépôt. Projet de règlement 529-2024-2. Traitement des élus municipaux. Monsieur François-Henri Lafarge.
Considérant que les élus désirent apporter leur contribution soutenue pour une année supplémentaire au contrôle des dépenses municipales, considérant que le règlement 529-2023-1 prévoit une indexation des salaires selon l'inflation, considérant que les élus ne croient pas que l'attraction des fonctions d'élus municipaux sera impactée par ce report, je donne avis et dépose le projet de règlement 529-2024-2. Traitement des élus municipaux afin de reporter au 1er janvier 2026 l'indexation de la rémunération des élus.
Donc, c'est un avis de dépôt. Merci. 4.7. Avis de motion et dépôt. Projet de règlement 546-2024-1. Clarification.
Excusez, monsieur le président.
Allez-y.
4.6. Avis de plus de clarification pour le bénéfice de la population. Pouvez-vous résumer ça? Moi-même, j'ai assisté au caucus. Pas sûr que j'ai bien compris.
Il n'y a pas d'augmentation des revenus pour les élus.
Il n'y a pas d'augmentation pour les élus. OK.
Comme c'est marqué là,
non? OK. Non, c'est rien que pour le bénéfice de la population. On sait que des fois, on se fait lire ça, puis les gens dans la salle, là, des fois, ils sont pas.
Merci.
Pour la qualification pour le bénéfice.
Merci. C'est bon. 4.7, un avis de motion et de dépôt pour un règlement 546-2024-1, clarification, M. Pierre Coutu.
Considérant qu'il est préférable de regrouper dans un même règlement l'ensemble des tarifications des services municipaux, considérant que la municipalité a décidé d'établir par règlement la base de tarification des différents services municipaux pour l'année 2024 et les années suivantes par le règlement 546-2023, considérant que certaines tarifications doivent être ajustées pour représenter les coûts réels, je donne avis le projet de règlement 546-2024, l'établissement des tarifications pour les différents services réalisés sur demande ou en situation particulière, Cela inclut notamment les frais de photocopie, services administratifs, la tarification des permis du département de l'urbanisme, la tarification du camp de jour, la tarification des salles, la tarification des publicités, les frais de matériel, la vente de nourriture et de la bibliothèque, les frais liés à la caduc, les frais applicables lors de travaux exécutés par les travaux publics en cas de négligence, manquement ou exécutés en domaine privé.
Merci pour l'avis de dépôt. Donc, c'est tout simplement comme on fait chaque année après un budget, de dire qu'au niveau de la tarification des camps de jour, de la tarification des salles de publicité, comme on vient de dire, pour le matériel, bibliothèque, etc., caduc, tous les frais sont dans le budget comme tel quel. 4.8, avis de motion et dépôt, projet de règlement 550-2024, taxation et compensation 2025. Donc, je demanderai à la fin quelqu'un qui va donner avis que le projet de règlement 550-2024, taxation et compensation 2025, pour son adoption lors d'une prochaine séance. L'étalement du premier versement est ajouté afin d'arriver à 6 versements pour les taxes. Les intérêts de 10% seront affectés sur les paiements en retard et des frais d'avis de rappel de 10$ seront facturés à partir du premier avis. Les revenus de taxation, après avoir du crédit agricole, augmentent en comparaison de l'année 2024. On n'avait pas le chiffre, excusez. On n'a pas reçu encore le Québec. Le règlement établit les taux de taxation basés sur l'évaluation. Taxation globale. Taux de base globale en 2024, 0,05973. En 2025, passerait une augmentation à 0,06255, soit une augmentation de 4,72%. Le global agricole. Le taux étant de 0,005773. Passerait à 0,05848, soit une augmentation de 1,29%. Le règlement établit les taux spéciaux pour différents services courants. Taxes de services. Matières résiduelles, 243,68 par logement en 2024. La même chose en 2025. Aqueduc, 326 par logement, n'est pas changé en 2025. Égout, 243,68 par logement. 394,31 par logement. Il y a une augmentation sur ce sujet-là, parce qu'il y a des frais à faire éventuellement pour le troisième, le nettoyeur, excusez, du étang numéro 1. Sûreté du Québec, 105$ par matricule. On chargeait avant, plus la différence sur les valeurs foncières. En 2025, les élus après discussion ont baissé à 50$ de base par matricule. Et la balance sur l'évaluation foncière. Qui donne l'avis pour le projet de règlement? Quelqu'un? Non. Monsieur Serge Perrault.
Moi, Monsieur Bérard, j'aurais une question, s'il vous plaît.
Allez.
La plupart des municipalités environnantes ont annoncé que l'augmentation du taux de taxe suivra l'inflation, soit aux alentours de 1,8%. Si j'ai bien vu, ce qu'il en est de notre municipalité, on monte de 4,72% pour le résidentiel. Donc, il est évident que Sainte-Élisabeth n'emboîte pas le pas de ses voisins. De plus, M. Bérard, vos projets planifiés comme la conversion de l'église, le troisième étang et Alouette ne sont pas encore pris en compte dans la taxation municipale, puisqu'ils sont planifiés mais non achevés. Votre héritage auprès de la population bayolaise et de la future administration sera-t-il d'augmenter obligatoirement les taxes municipales de 8 à 10% pour de nombreuses années?
C'est la fin de votre question?
Oui.
D'accord,
il y avait un point d'interrogation.
Non, c'est pas l'objectif non plus. Présentement, ce qui est arrivé en 2024, on a gelé le compte de taxes, tout simplement. Puis en 2025, pour aller de l'avant, pour faire toutes les réparations nécessaires minimum à faire, on est obligé d'augmenter légèrement au niveau résidentiel à 4,72. Ben, excusez, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors, le taux agricole, lui, est à 1,29 en bas de l'inflation. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à faire sur la partie résidentielle qui touche tout le monde, et les agriculteurs et les résidences. Au niveau résidentiel, on a beaucoup de facteurs, de choses à corriger. À ce niveau-là, on n'a pas le choix de le faire. Et c'est tout prévu dans le budget actuel.
Oui, oui, mais les dépenses qui vont avoir lieu par la suite en 2025, qui vont être facturées à la population, vont apparaître en 26, 27, 28, 29, 30 et j'en passe. Là, on va se retrouver avec une facture qui va augmenter de 8 à 10% pour tous ces beaux projets-là. Donc, ça va être votre héritage, M. Bérard.
C'est pas là la question, M. l'affaire,
c'est ça.
Ben, c'est ma question.
Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Merci. Quand ces projets-là seront faits, c'est pas l'idée que ce soit augmenté de 8 à 10 % les taxes pour la municipalité en faisant ces projets-là. Et ça n'a jamais été cette idée-là en passant.
C'était pas l'idée, mais c'est la conclusion qui arrive.
Monsieur. Dans ces nouveaux projets-là, il ne faut pas oublier une chose. L'un des projets, entre autres, en travaillant pour faire la nouvelle rue en même temps, et en travaillant pour arranger les étangs, et en même temps, ça va donner une évaluation foncière beaucoup plus élevée. Donc, l'évaluation foncière au niveau de la nouvelle maison des aînés, qu'on a travaillé 4 ans pour avoir ce projet-là du gouvernement, va nous donner environ 30 millions. Si on met environ 10 millions sur la nouvelle rue de valeur foncière, on a déjà une valeur foncière de 40 millions de municipalités. Donc, au village, on va traduire une valeur foncière de 80 millions au lieu de 40. Ça veut dire la partie du village, au niveau des égouts, en tout cas, ça va baisser de 50 % chacun votre taxe à payer pour les égouts en partant. En plus, sur d'autres avantages au niveau du plan aqueduc ou autres projets de réparation de route, tout simplement.
Donc, si je comprends bien, vous nous annoncez en primeur ce soir que, une fois que la maison des aînés donnera sa contribution à la municipalité, le taux de taxe des concitoyens du village va baisser de 50%. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Ouais, les montants à payer pour les taxes.
Hey, c'est une annonce. Belle nouvelle.
S'il vous plaît.
Il est comme toujours.
S'il vous plaît.
50% de rabais.
S'il vous plaît.
Jamais vu ça par chez Walmart.
Écoutez, c'est la femme.
Non, mais je ne sais pas si le suivez.
S'il vous plaît. Vous avez 40 millions de valeurs foncières au village présentement. Donc, quand vous payez vos taxes d'égout, c'est réparti sur 40 millions de taxes foncières au village. Quand ces projets-là seront terminés, vous allez avoir un autre 40 millions de valeurs foncières additionnelles. Donc, vous allez être à 80 millions. Toujours pour payer le même montant des égouts que vous avez. Donc, s'il y a deux fois plus de payeurs qu'actuellement, c'est juste normal que vous soyez à 50 % au lieu de 100 %.
Juste pour les égouts, là, mais les services vont augmenter.
Les égouts vont augmenter parce qu'on va faire des nouvelles rues.
Je m'excuse. Gardez vos questions. Vous avez une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chaque nouvelle rue, chaque nouveau secteur, c'est une taxe de secteur et la population n'est pas affectée par cette nouvelle rue-là. Donc, c'est les citoyens de la nouvelle rue qui vont payer leur propre taxe de développement, tout simplement.
Alex, tu as enregistré ce bouquin?
4.9.
J'ai un collègue qui lève la main.
Comme en caucus, le budget 2023 a vu la compression à l'extrême des dépenses afin d'absorber 1 027 000 $ engagés avant le 31 décembre 2022, pour lesquels la municipalité n'avait pas les fonds. Depuis, le document de travail n'ayant pas été retrouvé, le budget 2023 a dû être reconstruit entièrement. Le budget 2024 a été adapté à viser un règle de salaire de compte de taxe, voire une réduction symbolique de 45 $. Compte de taxe afin de retrouver un fonctionnement du normal. Moi, j'aimerais que vous expliquiez pour une fille de la population comment est-ce que vous avez arrivé à absorber un déficit de 1 027 313 $ considérant qu'il y a eu un emprunt de 500 000 au mois d'août, un avis de motion d'emprunt de 500 000 pour résorber ce déficit-là, et qu'il n'y a pas eu d'emprunt puis vous avez résorbé ça dans l'année 2020. Après, vous expliquez ça aux citoyens. Comment ça s'est passé?
Magie! Magie!
L'emprunt de 500 000, là, je ne sais pas exactement si où. Mais quand même, pour vous dire que nous, quand on a su par la vérificatrice l'an passé, entre avril et mai 23, qu'on avait à ce moment-là un déficit en 2022, ce qu'on ne savait pas, comme tel, une petite surprise. À ce moment-là, le conseil municipal s'est assis et avec l'aide du directeur général, on a coupé sur des projets d'ici à la fin de l'année 2023, justement pour aller chercher le déficit. Comme je vous ai mentionné tantôt, 2023, on a terminé l'année avec 1,568,224 de surplus avant la partie de mobilisation, ce qui fait qu'on a récupéré le déficit de 1,025,000, ce qui nous restait donc un surplus d'un peu plus de 500 000, mais avant le calcul des immobilisations. Donc, ce qui nous laisse quand même encore un surplus. Donc, dans la même année, aussitôt qu'on l'a su, on a corrigé le tir, on a été chercher le déficit, on l'a récupéré au complet.
Et?
Simplement.
Et? Là, qu'est-ce que je comprends, vous avez un surplus 2023.
C'est ce que j'ai mentionné tantôt, M. Sérignac.
Oui, là, jusqu'à un questionnement que j'essaie de comprendre, c'est il y a un mois et demi, l'adoption des augmentations salariales avec bonus à la performance. Compte tenu que vous aviez l'information qu'il y avait un surplus pour 2023, on va octroyer des bonus à la performance de 2 500. On va octroyer un bonus de 2 500 parce qu'on a résorbé le déficit 2022. J'essaie de comprendre. Puis encore là, ça fait un mois et demi, deux mois, j'essaie de comprendre comment cette négociation-là s'est passée. Je ne ferai pas de cafette, là, j'ai déjà négocié dans ma vie. J'essaie de comprendre comment ça se fait que vous êtes au courant de cette situation-là, vous savez les chiffres, et vous acceptez de donner des bonus de 2 500 et de plus pour porter encore plus loin, si on va compte, 5 000 de bonus. J'essaie de comprendre, M. Bérard, comment vous expliquez ça en boule, cette décision-là que vous avez prise.
On vous l'a expliqué le mois dernier lorsque la résolution a été votée pour le salaire de la direction générale au complet. On vous a tout expliqué ça, M. Sérignac.
Vous n'avez pas répondu à ma question, là, M.
Je vais vous répondre à la question.
Vous avez pas répondu,
je suis rendu au point 4.9. Calendrier de séance du conseil municipal en 2025. Silence, s'il vous plaît. Madame, calendrier de séance du conseil municipal en 2025. Madame Diane Lavallée, s'il vous plaît.
Oui. Merci. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant que la séance de travail générique au avantage a été établie à l'avance, considérant que des séances de travail supplémentaires peuvent être ajoutées sur simple invitation, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de Sainte-Élisabeth pour l'année 2025 comme suivi au 2391 rue principale, Centre Sylvain-Vert. Là, je vais vous lire rien que la dernière partie, conseil municipal. C'est tout à 19h, je vais vous lire les jours. Lundi 20 janvier, lundi 17 février, lundi 17 mars, lundi 21 avril, mardi 20 mai, lundi 16 juin, lundi 21 juillet, lundi 18 août, lundi 15 septembre, jeudi le 2 octobre, lundi le 17 novembre, enfin, lundi le 15 décembre. Ouh. Et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité.
Qui appuie la proposition, Mme Lavallée? M. François-Henri Lafarge. Donc, Votre question va passer au vote, s'il vous plaît.
D'accord.
Accepté à l'unanimité. Donc, première période de 10 minutes de questions suite au règlement, combien de jours?
10 minutes.
C'est ça, donc. C'est selon. S'il vous plaît. Le règlement municipal vous permet d'avoir, comme on a voté, vous permet d'avoir plus de périodes de questions qu'avoir qu'une seule période de questions à la fin de la réunion. Et à ce moment-là, dans le règlement municipal, on a voté que les premières périodes de questions seraient limitées à 10 minutes, tandis que la dernière période de questions est limitée à 15 minutes. Ça, c'est le règlement municipal qui a été voté il y a quelques années. Donc, Mme Pagé.
Joanne Pagé, bon, là, ça me dit, là, le 5 000 $ de bonus, si tout le monde vote pour, vous savez que vous n'avez même pas le droit d'influencer le vote, ça, c'est totalement à l'encontre, vous n'avez même pas le droit de faire ça. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous n'avez pas le droit de tenter d'influencer le vote, c'est supposé être démocratique, chacun a le droit de voter comme il veut et non pas être obligé pour donner un 5 000 $ que de toute façon, il veut absolument avoir, puis c'est nos taxes qui payent ça. J'espère que vous avez eu un avis juridique là-dessus parce que. Le taux 410-420 des égouts, il est à. Bon, là, je vais éviter toutes les zéros, là, puisqu'on a 10 minutes, il est à 12. Après ça, si on vire la page, il est à 163. Fait que c'est quoi le bon taux?
Je vais répondre à ça.
Si vous regardez à côté, d'un qui a l'évaluation, l'autre à superficie, donc c'est des règlements qui sont différents.
Non, moi je parle du chelir quand même, mais c'est, ça finit par 12 piastres d'évaluation, puis l'autre c'est 163 de la piastres d'évaluation. C'est exactement la même ligne. Je veux juste savoir c'est quoi le bon taux.
La réponse reste inchangée.
Ma question reste inchangée. Il y en a un qui s'affinit par 163, l'autre qui s'affinit par 12. J'aimerais juste savoir c'est quoi le bon taux. Parce que là, à l'article 8, vu que vous ne le trouvez pas, là, l'article 8, c'est 163, puis dans votre page de taux à 410-420, ça finit par 12. Ça veut dire que c'est pas le même taux, mais je veux savoir c'est quoi le bon, parce qu'il faut quand même calculer, là.
On va vérifier, puis on va revenir.
Non, je m'excuse, là, vous allez vérifier, parce que vous voulez juste d'adopter ça.
Je m'excuse. Il y a un détail qu'on va vérifier, qu'on va vous revenir là-dessus, tout simplement.
Ah, okay.
Merci.
OK. Puis là, vous dites que le taux agricole, c'était quoi? Parce que il me semble que c'est pas le même qui est écrit. Que vous en avez vu trop vite, c'était quoi? 47, 57, je ne sais plus, là, c'est parce que vous l'avez vu trop vite.
C'est le taux global qu'on a donné.
C'est le taux global qu'on a donné. Le 2024-005773. En 2025, 005848, une augmentation de 1,29%.
Le taux global comprend quoi? Parce que le résidentiel, ça aussi, c'est la même affaire, mais c'est ça.
Toute la partie agricole est là, puis l'autre partie, c'est résidentiel en haut. Tout est là. Tout est regroupé.
OK,
au complet.
Merci pour répondre à ma question. Ensuite, le 500 $ des comptes.
S'il vous plaît, Mme Pagé.
Le 500 $
Mme Pagé. S'il vous plaît, laissez la chance aux autres en arrière. Vous avez droit à deux questions. Vous avez droit à deux questions, Mme Pagé. Laissez la chance aux autres de parler en arrière. S'il vous plaît.
Une question, M. Bérard. Sur l'évaluation éventuelle du nouveau centre pour personnes âgées, la Maison des aînés, à ma connaissance, le ministère ou le gouvernement ne tarifie pas nécessairement selon l'évaluation. Il nous donne un montant qu'on appelle des tenants de lieux de taxes. Dans le tenant de lieux de taxes, ça comprend la taxe foncière, les égouts et l'aqueduc. Et même si tu as une bassiste de 30-40 millions, ils peuvent te décider de te donner 50 000 piastres au lieu de 100 000 piastres comme tu penses avoir. L'évaluation du village va changer, mais ce n'est pas vrai, ta taxation du village va changer, parce que c'est le ministère qui décide de t'envoyer le montant que tu veux. Il ne t'envoie pas le montant que tu lui demandes. Eux autres, ils t'envoient le montant qu'ils décident de t'envoyer. Mais c'est une maudite belle madrie.
Je vais demander à M. le directeur général de lire sur le site Internet la réponse pour M. Hull.
Donc, en effet, ça s'appelle une refonte des compensations tenant lieu de taxes pour les municipalités. Dans le document, c'est marqué que la valeur à l'évaluation est compensée à 100% pour les immeubles des réseaux de la santé, des services sociaux, de l'enseignement supérieur, des cégeps d'université et des services de garde.
La valeur à la 100%, mais ça ne veut pas dire qu'il va accepter ton taux de taxation.
Exactement.
Oui, le TGT, le taux général, le taux global de taxation.
Exactement.
Donc, plus, moins qu'on taxe, moins qu'il verse, plus qu'on taxe, plus qu'il en verse.
On vérifiera.
Mais il y a une nuance, que ça soit clair. Si le bâtiment, ça va coûter 85 millions, ça se peut que la valeur au rôle ne soit pas 85 millions. Donc, dans notre destination, on a mis 25 millions, parce que même si on est à 62, on se doute qu'ils ne vont pas dire que ça vaut 62 millions. On est d'accord là-dessus.
Ils peuvent mettre 6 millions.
C'est ce qu'il y avait sur l'ancienne bâtisse. Donc, basé sur les autres maisons des aînés, c'est pas ce qu'ils ont fait.
S'il vous plaît.
J'ai été assis à votre place quelques années. De mémoire, ça fait quand même 7-8 ans que je suis pas là, mais j'ai quand même une fois pire mémoire. Le tenant de terre que Sainte-Élisabeth recevait pour les écoles, le centre d'accueil qui était occupé ou pas, c'est autour de 48 à 50 000 piastres. Qui comprenait les égouts, les aqueducs, tout. Fait qu'attendez-vous pas d'avoir 200-300 000 piastres, là, vous rêvez.
Prochaine question, s'il vous plaît.
Andréane Savignac, grand renseigneur. Tantôt, vous avez parlé, vous avez mis des projets sur la glace pour éponger le déficit. Quels étaient ces projets que vous avez mis en suspens?
Je n'ai pas ça par cœur présentement, mais je pourrais.
Mais
là, s'il vous plaît.
Il me semble que ça doit être des gros projets pour éponger ce déficit-là. Ça doit être facile de s'en rappeler.
Bon, je vous répondrai prochainement. Il n'y a pas de problème.
Vous allez noter. Notez-le, s'il vous plaît. J'aimerais que vous m'en
merci, Mme Savignac.
Bon, ben, vous avez répondu à une question que je voulais poser. On va attendre la réponse pour les coupeurs. Où étaient les dépenses over en 2022 pour arriver à 1,7 million, 1,27, là, on ne sait plus, là, en tout cas, 1 million au moins. C'était quoi les dépenses vraiment farfelues qui ont été faites en 2022 pour arriver à ça?
Madame Monsieur Dufresne, pour répondre à votre question. Madame la vérificatrice a répondu à votre question l'an passé, lorsqu'elle est présente.
Il y a deux ans.
C'est en 2023, disons. Lorsqu'elle est venue répondre, elle a présenté chaque point qu'on fait, qu'on composait le déficit. Elle a très bien éclairci, établi les faits. Donc, on a tout ça par écrit depuis longtemps. Là. C'est pas nouveau. Là. Mais je ne les ai pas par cœur, simplement. Mais je pourrais vous rafraîchir. Pour ouais, ça, il n'y a pas de problème.
Ça, avec vous avez coupé dans quoi les dépenses en 2023 pour arriver à un beau budget de 1 500 000 en over.
Parfait, merci.
Nadia Beaulieu-Rizorisseau. Moi, j'ai juste une question. Vous nous parlez de respect en tout temps. Mais moi, hier, j'ai assisté à une situation que j'ai trouvée totalement irrespectueuse envers nous. Moi, je m'attends du maire qui prenne plaisir à un événement. Qu'il n'aille pas dire que ses citoyens manquent de respect, qu'ils sont non civilisés, puis qu'ils aient de la tort là-dessus. Si selon moi, là, si vous avez quelque chose à dire, c'est devant tout le monde ici et pas derrière notre dos dans une fête d'enfants où que ça n'a pas lieu d'être.
C'est votre avis, madame, ce n'est pas lui.
Je crois que vous savez de quoi je parle.
C'est votre avis, madame, ce n'est pas le mien.
On l'a entendu.
Donc, je vais me dépêche. Le 500$ qui était supposé être crédité, c'est compte pour les compteurs d'eau. Quand on a demandé, moi, mien, j'ai demandé le 15 janvier de venir, ils sont venus à la fin de l'été. Je veux savoir, est-ce que je vais être crédité à partir du 15 janvier ou au prorata, comme c'est écrit dans votre fameux règlement?
Merci, Jean.
Monsieur le directeur général, s'il vous plaît.
Vous avez fait la demande le 15 janvier?
Ben oui, vous m'avez même confirmé que je l'ai fait.
Ça va être crédité au prorata juste au 15 janvier. Vous allez être crédité au complet, puis il va y avoir juste 15 jours.
Moi, j'ai fait la demande, mais on n'est pas venu le 15 janvier pour venir vérifier. Là, afin de mettre les sceaux. Fait que moi, je m'attends.
Mais le compteur est installé le 15 janvier?
Oui, quand je suis allé le chercher, j'ai dit demain après-midi, il va être installé.
C'est correct. Nous, c'est ce qui est un dossier.
Parfait. Ensuite de ça, tu sais, t'as qu'à faire corriger le point 012 avec le 163. C'est écrit dans l'article 8, 97,69 de l'unité pour les taxes d'égout. Mais si on se fie à vos feuilles, c'est 394,31. Fait que là, j'aimerais mieux personnellement payer 97,69. Est-ce que je peux choisir cette option-là?
Hey, moi aussi, je l'avais.
Non, ça va être 394,31, Mme Pagé, parce qu'on a l'état numéro 1 à l'idée.
Parce que vous venez quand même d'adopter ça. Il y a aussi, sûrement que je ne suis pas la seule, là, que j'ai reçu des comptes qui étaient déjà payés depuis deux mois. Mes comptes de taxes municipales, là, mon compte, en plusieurs versements. Il était payé depuis deux mois, puis j'ai reçu un avis pour dire que c'était pas payé. Là, ça fait deux ans d'affilée qu'il y a beaucoup de monde dans la municipalité qui reçoivent ça, avec les frais, avec tout. Là, y a-tu moyen, à quelque part, que la job soit faite à 12 personnes qui sont employées ici? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire sa job. Est-ce que ça va être surveillé pour 2020?
Toujours.
Vous avez spéculé sur le taux de taxation pour les égouts et l'aqueduc. Vous avez dit que les égouts devraient même baisser de 50%. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est parce que vous avez spéculé sur la nouvelle rue puis les nouveaux taux de taxes. Vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça, de spéculer. Parce qu'en 2025, là, je doute fort bien que la nouvelle rue va être faite puis que toutes les maisons soient bâties que la taxation change en
Moi, Mme Pagé, là, tantôt, j'ai répondu dans un futur, lorsque ça sera fait. Je n'ai jamais mentionné en quelle année ça sera.
Il ne faut
pas oublier que la maison des aînés s'est gardé un droit après que la fin de la construction de la maison des aînés. On doit un an et demi sans payer la taxe sur le surplus qu'ils ont construit. Ils vont payer la taxe après un an et demi plus tard. Ils vont payer la taxe selon ce que M. Paradis vous a lu tantôt dans le texte. C'est bien.
Okay,
donc, ça va aller dans le futur. Ça ne sera pas en 2025, je n'ai jamais mentionné 100%.
Ben, vous savez que ça change beaucoup le fameux taux de 50%.
Ça ne change pas. Ça va arriver dans les années futures.
Ben, ça ne peut pas arriver.
Merci, Mme Paradis, pour vos questions. On va passer au point suivant, point 5, trésorerie. 5.1, dépôt de liste des engagements au 11 décembre 2024. Le directeur général et greffier trésorier, conformément à l'article 961.1 du Code municipal, ont déposé la liste des engagements pris par tout employé municipal délégué par règlement d'engager des fonds de municipalité. Cette liste comporte tous les engagements passés et présents qui n'ont pas été réalisés. 5.2, dépôt des comptes à payer. Le directeur général et greffier trésorier dépose la liste des comptes à payer en date du 13 décembre 2024 selon les entrées au système comptable. 5.3, dépôt des déboursés. Le directeur général et greffier trésorier dépose une liste de déboursés effectués pour le mois de novembre 2024. 5.4. Utilisation de sol disponible.
Monsieur Bérard, quand vous dites déposer, c'est déposer sur le nuage? Parce que là, ce soir, je n'ai pas de documents qui me sont remis à ce niveau-là. Donc, je me demande, est-ce qu'ils ont été mis dans le nuage, dans le cloud, si vous préférez?
Je voulais répondre sur ça.
Je ne suis pas allé vérifier, mais hier, ils n'y étaient pas. Puis, le mois dernier, on avait eu la confirmation suite à du fait que les nouveaux employés, directeurs généraux adjoints, est une carte de crédit, qu'on devrait voir les relevés de dépenses provenant des cartes de crédit, ainsi que celles de monsieur le directeur général. Ça, est-ce que c'est déposé également? Parce que là, je me questionne.
Quand c'est approuvé, les dépenses, vous pouvez aller à la municipalité, vous pouvez les consulter.
Non, non, je suis quand même conseiller municipal.
Il n'y a pas de problème.
Je n'ai pas besoin de venir à la municipalité, s'il vous plaît. Là.
S'il vous plaît.
Parce que je vois qu'il y a un petit écu rouge sur le nuage.
Ça veut dire qu'à ce jour, maintenant, ils ne sont pas déposés.
Moi, il est à ce nuage, mais vous ne l'avez pas de votre côté. Fait que je ne veux pas
dire qu'ils sont déposés.
La carte de crédit, c'est la page. Monsieur Lafarge, juste pour votre information, les cartes de crédit pour les autres cartes n'ont pas été mises, donc cherchez-les pas, il va juste avoir la mienne.
Parfait, je vous remercie.
5.4, utilisation du sol disponible sur l'emprunt fermé, 488-2017 en 2025, M. Serge Perrault.
Considérant que par l'article 8 de la loi sur la dette, les emprunts municipaux de la municipalité peuvent effectuer un solde disponible sur emprunt par simple résolution si cette affectation respecte l'objet du règlement. Considérant qu'il y a un solde disponible sur l'emprunt fermé pour le secteur aqueduc du règlement 488-2017 aqueduc. Considérant qu'il est de la volonté de la municipalité d'utiliser une portion de ce solde disponible lors de l'adoption du budget. Considérant que le montant disponible pour l'affectation a été révisé par une tierce partie, je propose d'affecter un montant de 112 202 $ du solde disponible sur l'emprunt 488-2017 pour l'année 2025.
Qui a pris la proposition?
Je l'appuie.
Monsieur Benoît Desrochers. Donc, comme à chaque année, c'est la deuxième année qu'on a ça, on a un surplus cumulé cette année de 112 202, donc il va être appliqué pour rembourser l'emprunt 488-2017, donc ça fait moins de taxes à rembourser par les citoyens. Et il y a moins d'intérêt aussi. Donc, je vais passer au vote, s'il vous plaît.
Monsieur Bérard, je pense que devant le questionnement de la population, pourriez-vous mieux détailler, tout ça vulgariser, si je peux dire, un petit peu la chose, parce que même moi, j'ai du mal à comprendre. Là.
Donc, vous avez un surplus qui a été emprunté, un surplus gagné de 112 202.
On a emprunté trop, c'est ça?
C'est ça.
Qu'on va pouvoir remettre sur l'emprunt actuel pour baisser l'emprunt actuel. Quand ça va baisser l'emprunt, automatiquement, ça baisse les intérêts aussi, tout simplement. Donc, c'est la deuxième année consécutive qu'on fait ça, tout simplement.
Parfait.
Donc, je vais passer au vote, s'il vous plaît.
D'accord.
D'accord.
Acceptez l'unanimité. Ressources humaines. 6.1. Autorisation de signature, lettre d'entente avec le syndicat 4520-2024-02. Monsieur Pierre Savignac.
Considérant que le 18 novembre 2024, le comité exécutif a envoyé une lettre signée par le président du syndicat pour que l'employeur envoie les déductions des cotisations syndicales avec les informations au SCFP. National. Considérant que le conseiller juridique de la municipalité a recommandé la présence d'une lettre d'entente pour statuer sur la clause 5.03 de la convention collective qui sera modifiée par la demande déposée par le syndicat, il est proposé par, appuyé par, d'autoriser la direction générale ainsi que le maire de signer la lettre d'entente 2024-02 avec le syndicat local 4520.
Donc, j'ai bien compris, vous avez fait la proposition, M. Savignac?
Je fais la proposition, M. Pierre Savignac.
Appuyé par...
J'appuie.
M. Serge Perrault. Donc, tout simplement, le syndicat, il y a une nouvelle entité pour produire le paiement. Donc, comme c'est un autre nom qui apparaissait à la convention syndicale, donc il faut passer une résolution au niveau du conseil pour modifier ce nom-là pour faire les versements au nouveau nom de cotisation syndicale de ce service-là, tout simplement. Je vais passer au vote, s'il vous plaît.
D'accord.
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 D'accord. Accepté à l'unanimité. 6.2, autorisation de formation Travaux publics du Québec, M. Serge Perrault.
Considérant que la personne salariée 02-23 est nouvelle dans sa fonction et malgré une formation et une expérience pertinente à l'emploi, ne possède pas l'expertise dans l'ensemble des travaux à effectuer. Considérant que l'Association des travaux publics du Québec offre un service personnalisé et adapté à notre réalité, je propose d'autoriser une dépense maximale de 5 000 $ plus les taxes applicables auprès de l'Association des travaux publics du Québec pour l'accompagnement individualisé pour la réalisation des différentes tâches requises sur notre territoire. Cette dépense sera affectera le poste budgétaire 02-32-00-454 selon l'année de réalisation et l'accompagnement et la formation, de l'accompagnement et la formation en 2024 et 2025.
Qui a pris la proposition?
Merci.
M. Pierre Coutu.
M. le maire.
Donc, il s'agit dans ce sujet-là, la personne qui était nommée aux travaux publics de nous accorder un aide en formation. Cette formation-là, on accorde une dépense maximale de 5 000 pour lui aider dans ses tâches municipales. Allez-y.
Je pourrais continuer, M. le maire, j'avais une question. Là, vous avez répondu un peu à ma première question. C'est quand même encore 5 000 piastres qu'on donne pour la formation de travailleurs à la municipalité. En deuxième, je voudrais savoir combien environ de formations ainsi que de dépenses avons-nous voté pour l'année 2024? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup.
Pour l'année 2024, on avait un budget de formation d'environ 40 000 $. Puis on a dépensé présentement 25 000 $.
En formation
présentement. C'est important la formation, que les gens apprennent c'est quoi qu'ils vont faire exactement. Donc, je vais...
Monsieur Bérard, suite à la question de ma collègue, là, moi, je m'interroge également beaucoup parce qu'on a un roulement de personnel qui est assez impressionnant à Sainte-Élisabeth. Là, on a fait quand même... on a fait appel à des services d'une firme de ressources humaines pour sélectionner les candidats. Puis là, on me dit que, OK, des formations, mais là, il en faut encore plus. On dépense beaucoup. Est-ce qu'on a vraiment fait la recherche du candidat parfait pour ce poste-là, M. Bérard? Parce que apparemment, il en manque encore.
J'aimerais ça, M. Lafarge, trouver à chaque fois qu'on affiche un poste, trouver le candidat parfait qui n'existe plus beaucoup en ces années ici. Donc, malheureusement, les personnes que l'on prend ont besoin de formation pour leur poste de métier comme tel. Et c'est ce qu'on fait.
Oui, mais on paye à gros coups une firme de ressources humaines pour se faire dire prenez celui-là, puis en fin de compte, il faut encore repayer. Là, ça multiplie les frais, je trouve.
Ça ne veut pas dire, M. Lafarge, que parce qu'on paye quelqu'un à la ressource humaine, que le candidat qui va appliquer sur le poste, lui, va être parfait.
Non, je comprends.
Ça se montre parfait.
Tout simplement.
À part que toi, là, tu sais.
Un premier avis, s'il vous plaît, Mme Strang. Merci. Donc, je vais passer au vote sur la proposition, s'il vous plaît.
Oui, M. Bérard, je vais voter contre.
Je vote contre.
Contre, M. Bérard.
C'est à moi?
Contre, M. Bérard.
Vote pour refuser. Numéro 7. Urbanisme et développement économique. Aucun sujet prévu. 7.1. Autorisation des frais professionnels pour présentation aux élus. Sainte-Gervaise Bélanger, SP. Monsieur Pierre Savignac.
Considérant que le projet de rénovation du Sainte-Gervaise Bélanger, SP, arrive aux dernières étapes avant l'appel d'offres aux entrepreneurs. Considérant que certains élus désirent avoir une lecture des estimations par les professionnels. Considérant que les élus sont conscients que la portée des travaux en architecture ne pourra pas être discutée avant janvier 2025. Considérant l'indisponibilité durant ces vacances en cours de l'architecte. Il est proposé par Pierre Savignac d'autoriser une dépense maximale de 10 000 $ plus les taxes pour l'ensemble des professionnels suivants. Lachance et Associés architectes, Ponton et Guillotte ingénieurs, Ghislain Lambert ingénieur et Patrimonia archéologie. Cette dépense sera financée par l'affectation des surplus non affectés au poste budgétaire 03-41-000-000 au poste budgétaire 03-01-000-006.
Qui appuie la proposition?
Je vais l'appuyer.
Monsieur Serge Perrault. Donc, à la demande des membres du conseil, à ce moment-là, il y aura une rencontre avec des professionnels qui étudient présentement les travaux au niveau du Saint-Gervais-Bélanger qui aura lieu en janvier. Il y a un budget maximal de 10 000 $ que ces professionnels-là se préparent et qui vous donne un résumé de tout ce qui est prévu de faire présentement. Donc, je vais passer au vote, s'il vous plaît.
Monsieur Bérard, avant de voter, je voudrais faire une remarque afin de justifier mon vote, si vous m'y autorisez.
Si vous avez une question, normalement, c'est ça que vous devez poser, et non pas une remarque.
Bien, il y aura une question à la fin, si vous voulez. M'y autorisez-vous, M. Bérard?
Votre question seulement.
Ben, je vais la mettre en contexte quand même, sinon ça ne sert à rien. Sinon, je ne pourrais pas avoir une réponse adéquate.
Posez-moi votre question.
Je vais la mettre en contexte. Puis, je pense que, d'après ce que j'avais compris du MMH, je suis en droit de justifier mon vote.
Au lieu d'un point d'exclamation, tu vas avoir un point d'interrogation.
Oui, à peu près. Tout d'abord, M. Bérard, je tiens à vous remercier d'avoir autorisé, suite à notre demande, une rencontre avec les professionnels concernés pour le projet du Centre Gervaise-Bélanger SP. Nous sommes très satisfaits que cette rencontre soit reportée en janvier, puisque la rencontre était initialement prévue ce mercredi 18 décembre, malgré l'absence de l'architecte maître du dossier. Il ne nous aurait été pas possible, malheureusement, de la questionner sur certains aspects du dossier. Nous pourrons ainsi, après cette première rencontre, mesurer l'état du dossier et d'en faire part à la population lors des séances du Conseil à venir. Moi, je l'espère. C'est une belle avancée, car, peut-être pour une première fois, même si à nos yeux cela est un peu tardif, vous acceptez d'impliquer pleinement les conseillers de manière responsable, en lien avec leur mandat de représentant de la population. Nous espérons que cette rencontre puisse initier un processus de gestion et d'implication de tous les conseillers de manière plus responsable et en lien avec les demandes exprimées par la population bayolaise. Contrairement à certaines rumeurs qui circulent, nous n'essayons pas de tout mettre en place pour retarder au maximum le projet. Nous avons toujours maintenu que nous, à titre d'élus, représentants de la population, ne voulions pas nous engager dans ce dossier sans avoir obtenu toutes les informations qui nous semblent nécessaires pour exprimer un vote éclairé. Nos demandes sont avant tout que la rigueur, la transparence, la responsabilité et la crédibilité soient de mise tout au long du processus, ce qui malheureusement ne nous semble pas avoir été entrepris, et ce, dès les premiers balbutiements du projet. Il nous paraît totalement irresponsable d'improviser lorsque les finances municipales sont impliquées. De ce fait, il serait nécessaire, 1. De nommer un chargé de projet compétent et, si possible, membre certifié par le PMI Project Management Association. 2. Qu'un dossier de projet soit réalisé. 3. Qu'un cahier des charges du projet soit élaboré. De plus, nous vous demandons de rendre public l'intégralité des documents en rapport avec le dit projet, soit les études sur le bâtiment existant, les rapports des architectes, les demandes gouvernementales de subvention, la lettre d'intention du PRACIM, les dépenses engagées à ce jour, etc. Nous considérons qu'un projet d'une telle envergure doit être celui de toute la population. Pour que cette dernière adhère, il faut l'impliquer. Comme mentionné par le comité Images, la population bayolaise doit être consultée. Sans ces quelques conditions, il nous est inconcevable d'aller de l'avant dans cette aventure. De plus, il est primordial, comme l'a mentionné le conseiller du siège numéro 2, que les états financiers certifiés de l'année 2023 soient déposés. L'absence de ces documents pourrait avoir un impact sur l'admissibilité aux différentes subventions ainsi que sur les montants alloués auprès des organismes gouvernementaux. Vous nous avez annoncé la semaine dernière que la subvention provenant du PRACIM pourrait ne pas nous être accordée. Compte tenu du rapport de la CMQ, du rapport financier certifié 2023 non déposé, avez-vous mesuré l'ampleur et les impacts de gravité de cette situation sur le projet ? Il est nécessaire de nommer l'état des lieux et d'amoindrir les effets de la crise qui subsiste et s'amplifie dans la municipalité entre l'administration de ce projet et la population qu'elle est censée desservir. Nos démarches et demandes s'inscrivent dans un processus de transparence et d'atteinte des objectifs qui a fait si cruellement défaut jusqu'à ce jour. Aller en bas de ça nous condamne à maintenir l'état du dossier hautement politique et émotif. Donc, M. Bérard, ma question, puisque vous en vouliez une, avez-vous mesuré l'ampleur et les impacts de gravité de cette situation sur le projet, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir rendu les rapports financiers 2023, comme c'est stipulé dans divers documents gouvernementaux, pourrait avoir un impact sur la subvention et les montants alloués de cette même subvention?
Effectivement, M. Lepage, comme on vient de mentionner tantôt, avec le surplus prévu en 2023, comme vous avez mentionné tantôt. Est-ce que c'est moi qui réponds?
Oui, oui, je vous en prie.
Vous avez fait, vous, là, un paquet de préambules.
Oui.
J'ai déjà dit qu'en fait, l'autre préambule de même, vous devez me fournir le texte avant.
Mais il me fera plaisir de vous le fournir, je vais quand même...
Et je ne répondrai pas au préambule, parce que je ne suis pas d'accord avec le préambule, mais comme je n'ai pas le texte, je ne répondrai pas.
En fait, la question sans préambule, fait que
ça vient finir là, simplement. Donc, tantôt, je vous ai mentionné, à plusieurs reprises, en 2023, on avait épongé le déficit. 1 568 000 qu'on avait avant immobilisation de surplus. On a épongé le déficit de 1 025 000 quelques dollars à ce moment-là, qui est resté quand même un surplus en 2023, dont la vérificatrice est en train de vérifier les papiers présentement, et qu'elle n'est pas encore en mesure de donner une date qu'elle va déposer les documents au conseil, après avoir lui demandé à plusieurs reprises. On est rendu là. Donc, on a un surplus 2023, et c'est pour ça qu'on va de l'avant avec le projet, parce qu'on a l'argent accumulé.
Ok, M. Bérard,
s'il vous plaît.
Là, je reviens sur ce que vous venez de me dire.
S'il vous plaît.
Je reviens sur ce que vous venez de me dire parce que je vois que vous êtes un fin politicien qui sait très très bien noyer le poisson. Ma question, M. Bérard, je vais vous la reformuler pour que vous la compreniez mieux. Compte tenu que du rapport de la CMQ, puis que le rapport financier 2023 certifié par un expert comptable n'est toujours pas déposé, dans de nombreux documents provenant du gouvernement qui a trait aux diverses subventions fournies par le gouvernement, il est bien indiqué que même si les rapports financiers, en effet, sont remis tardivement, il n'y a pas d'impact direct sur la municipalité. Cependant, lors de l'octroi de subventions, cette non-commande, c'est-à-dire de ne pas avoir déposé les états financiers dans les temps nécessaires, peut avoir un impact sur les subventions allouées ainsi que le montant de ces mêmes subventions. Donc ma question, Monsieur Bérard, j'espère que vous avez compris, estimez-vous vraiment l'ampleur et les impacts de gravité de la situation actuelle du fait qu'il y a eu le rapport de la CMQ et que les états financiers de 2023 n'ont toujours pas été déposés? Cela pourrait avoir donc des impacts sur les subventions qui nous auraient été accordées normalement.
Effectivement, M. Lafarge, on travaille très fort justement avec la vérificatrice pour déposer l'état financier 2023 le plus vite possible. Parce que ça a un impact sur les subventions futures, peut-être, dans certaines situations. Tout simplement.
Donc, on pourrait avoir beaucoup moins que ce qui était prévu à l'origine pour le dossier de l'Église.
Et voilà.
Je m'excuse, M. Lafarge, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une déclaration là, qui dépasse tout. Là.
Et pourquoi, à ce moment-là, dans les...
Je mets donc fin, M. Lafarge, à votre questionnement, s'il vous plaît, j'ai répondu. On arrête ça, là.
Pas clairement, mais c'est pas grave.
On arrête ça, là.
Vous savez, M. Bérard, hein?
M. Lafarge,
Faut être deux pour danser,
s'il vous plaît.
Je pose des questions, mais il faudrait que vous m'y répondiez.
M. Lafarge...
Ah, mais toi, c'est le ketchup, lui, c'est un rock'n'roll!
Deuxième avertissement, Mme Dufresne. Vice à gauche,
vice à
droite. Mal compteur. Le curé
vote.
Ah oui, c'est vrai. Passez au vote pour la résolution, s'il vous plaît.
Donc, je vais voter d'accord parce que je vois entendre les architectes là-dessus.
D'accord.
D'accord, monsieur le maire.
D'accord.
Acceptez l'unanimité. Période de questions, 10 minutes.
Dans la trésorerie, il y a les dépôts, mais on n'a aucun montant. Tu sais, vous ne voulez pas nous donner la liste, mais écrivez-nous au moins les montants. Est-ce que c'est possible, à partir du mois prochain, d'avoir les montants des comptes payés ou à payer, ou déjà payés?
Ça a été fortement suggéré par le CMQ dans l'outil, justement.
Ça va sous question. Ça va dessus dehors avant de se faire
là-dedans. On va regarder ça, madame Belle.
Étant donné qu'on n'a pas les comptes à payer, je me pose la question les bonus que le DG. A demandé, est-ce qu'ils ont été payés dans des comptes qu'on ne voit pas ou pas encore?